Chapitre 51. 8h32.
C'est pas normal que Nectar soit pas là,
panique Savine.
C'est pas normal qu'il réponde pas. C'est pas normal que...
Je trouve son inquiétude touchante. Serait-elle capable de l'embrasser si Nectar surgissait? De lui avouer qu'elle a eu si peur, qu'elle ne veut pas le perdre, qu'elle l'aime?
Je vais le chercher, décide Savine. J'ai un 4x4 et des pneus neige. Ils annoncent que dans moins d'une heure, la vraie tempête va souffler.
Un bruit de tracteur couvre la fin de sa phrase, doublé d'une odeur atroce de caoutchouc brûlé. Nous observons, stupéfaites, la Renault 5 surgir devant la cour de la Souille. Moteur et pneus fumants, comme si Nectar avait roulé toute la route en première. La peinture blanche est maculée de boue, de neige fondue, de feuilles collées et de dizaines de traces de mains, comme si tout un régiment l'avait poussé pour qu'il puisse arriver. Nectar Paturin sort de la R5, les jambes légèrement arquées, façon cavalier de l'US Postal, ayant échappé à une embuscade d'Indiens. Il tient une enveloppe dans sa main.
« J'y suis arrivé. Les pompiers de la Bourboule ont dû me sortir du fossé, mais j'y suis arrivé. »
Je m'approche. J'ai envie de lui arracher le papier.
« Savine m'a mis au courant de son pari. »
sourit étrangement Nectar.
« Un restaurant chaque soir jusqu'à la retraite, si les deux ADN sont le même. »
Je suis à 1 mètre de lui, mais il lève la main plutôt que de me tendre l'enveloppe.
« J'étais persuadé que vous mentiez, docteur Libéry, que votre esprit tordu inventait toutes ces ressemblances. Tout mon instinct me le soufflait. Une fois de plus, Beaucolon s'est planté. »
Il glisse enfin l'enveloppe dans ma main et se force à ironiser.
« Tu vas devoir faire des heures supplémentaires, Savine, ou prendre des cours de cuisine. »
Je déchire l'enveloppe qui tombe dans la neige. Je vérifie à peine les logos et les tampons officiels. L'icône tricolore en haut de la feuille et l'idéogramme chinois en bas. Je me contente de lire le résultat. Test ADN numéro 17854. Comparaison des lots 2021-973, Esteban Libéry, et 2021-974, Tom Fontaine. Les génotypes des deux lots fournis sont strictement identiques. Taux de fiabilité de 99,94513%. En conséquence, les deux échantillons fournis proviennent soit du même individu, soit de jumeaux monozygotes. Je prends à peine le temps d'analyser la signification d'une telle révélation. Seuls des jumeaux peuvent posséder un même ADN. Tom et Esteban ne peuvent pas être jumeaux. C'est donc aussi impossible que cela puisse paraître qu'ils possèdent rigoureusement la même enveloppe corporelle, qu'ils ne forment qu'une seule et même personne. J'entends à peine derrière moi Nectar crier à Savine.
« Ça nous dépasse, là, j'appelle la police, et qu'il ramène aussi un exorciste. »
J'ouvre la porte de la Souille, je sais qu'elle n'est jamais fermée.
« Attendez !»
lance Savine en m'emboîtant le pas. Je ne l'écoute pas. J'entre. Je ne prononce que 4 mots, toujours les mêmes.
« Je dois protéger Tom !»« Les policiers s'en sont chargés !»
me rassure Savine.
« Il y avait une fliquette de garde, Jennifer Louchadière. »
Nectar court derrière nous et la contredit.
« Non, Savine. Louchadière est repartie chez elle hier soir. Tout était calme d'après les gendarmes. Elle n'avait aucune raison de rester. »
Je me demande une microseconde comment Nectar peut être aussi lent dans tout ce qu'il entreprend et être toujours aussi bien informé.
« De toutes les façons, » criai-je en me précipitant vers l'escalier, « les policiers ne croiront jamais à cette histoire de réincarnation. Ils se contenteront d'une enquête limitée à leur vision de la réalité. Ce sera comme rechercher un meurtrier dans la nuit en espérant qu'il passe sous le seul réverbère éclairé. « Amandine !»
Je hurle. Même si cette bourrique s'est bourrée de Valium, je vais la réveiller. J'entends Savine se précipiter derrière moi.
« Non, Maddy, attendez, attendez les policiers !»
Je parviens devant la porte de la chambre. Amandine est couchée sur le côté, une tasse contenant un liquide poisseux est posée sur le chevet.
« Amandine, répondez-moi, c'est important. Est-ce que Tom vous a parlé de changer d'enveloppe corporelle, de rejoindre un monde englouti, de renaître dans l'âme d'un autre enfant ?»
Amandine ne réagit pas, complètement shootée. Je traverse le palier telle une furie.
« Tom ! Tom !»
Savine se retrouve face à moi dans sa tenue d'agent sibérien du KGB. « Doucement, m'a dit. On a avancé avec ce test ADN.
On sait maintenant qu'il y a un truc pas clair. On est avec vous, on va témoigner. Mais il faut laisser faire les policiers. Je la bouscule. Je veux passer. Je veux voir Tom. J'ouvre la porte de sa chambre à la volée. Et je me pétrifie à l'entrée. Tom n'est pas là. Je regarde incrédule le lit défait, les draps repoussés comme si Tom s'était simplement levé pour aller aux toilettes, puis sur la chaise la plus proche, un pyjama abandonné, trempé, la preuve que Tom s'est habillé en urgence et est sorti en pleine nuit. Tout recommence, tout recommence. Je me retourne, plonge mon regard vers la chambre d'Amandine et hurle plus fort encore. « Où est Tom ?» Son corps allongé n'a pas bougé. Tout ce qui se passe autour d'elle n'est-il qu'un cauchemar qu'elle refuse d'affronter ? Savine m'attrape par le bras. « Calmez-vous, m'a dit, s'il vous plaît. »« Mais vous ne comprenez pas. Esteban a disparu le matin de ses 10 ans. Tout recommence, tout recommence. » Nectaire est resté en bas de l'escalier. « Non !» ordonne-t-il. « Ne touchez à rien dans cette chambre. Cet homme a été enlevé, c'est une scène de crime. Chaque détail pourra compter. » Il n'a pas grimpé 3 marches que j'ouvre déjà les tiroirs de la commode devant moi, jusqu'à les décrocher. Des livres, des cahiers, des feuilles s'éparpillent. Je continue de fouiller la chambre de Tom, hystérique. Je dois trouver quelque chose, n'importe quoi, le moindre indice. Je n'ai pas réussi il y a 10 ans, je n'ai rien vu venir. Je ne me suis pas méfiée. Je ne dois pas échouer une deuxième fois. Je dois découvrir où il est allé, qui l'y a entraîné. J'arrache tous les cintres de la penderie. Des chemises, des pantalons, des pulls s'envolent avant de retomber autour de moi. Je frappe de toutes mes forces le fond de l'armoire, du bout du pied. Ma semelle passe à travers le contreplaqué. Aucun double fond. « Non, m'a dit !» tente de me raisonner Savine. « Je dois trouver !» Par la porte ouverte, j'aperçois Nectaire, téléphone collé à l'oreille, appelant sans doute des renforts. N'a-t-il rien compris ? J'arrache les draps du lit. Je fais valser les oreillers. Rien. Il y a forcément quelque chose à découvrir. Tom a besoin de moi. Tom est en danger. La police ne me croira pas comme il y a 10 ans. La police perdra trop de temps. Savine se tient debout derrière moi, dépassée pour la première fois. Elle a cessé de lutter. Je me penche et marque bout pour déplacer le matelas. Je n'y arrive pas. J'ai l'impression de me vider de toutes mes forces, plus rapidement encore que si je perdais des litres de sang. J'implore Savine du regard. Aidez-moi, aidez-moi. Elle soupire. Elle aussi, je le devine, a basculé dans l'irrationnel. Il est trop tard pour reculer, on plonge en enfer. On remontera à la surface plus tard, pour expliquer ce qui peut être expliqué. À 4 mains, nous poussons le matelas jusqu'à ce qu'il glisse, puis tombe à plat sur le parquet, soulevant un épais nuage de poussière. Je tousse, mes yeux me piquent, je ne vois d'abord que quelques lattes brisées, jamais réparées. Le nuage se disperse, comme se retire la mer. Savine, à côté de moi, s'est arrêtée, spontanément. Elle a attrapé ma main. Quand l'irrationnel surgit à ce point, quand on ne peut plus se raccrocher à rien, il faut bien se raccrocher à quelqu'un. Sous son lit, Tom a construit une maquette. Personne n'a jamais dû la voir, et encore moins sa mère. Tom savait que jamais aucun balai ne viendrait détruire son œuvre secrète. Je reste subjuguée par la précision des détails. Le clocher de l'église, l'horloge de la gare, la cour de l'école, l'enseigne en croissant doré devant la boulangerie, chaque réverbère, chaque toit, chaque cheminée, un village entier, aucun habitant, aucun animal, un village entièrement peint en bleu. La peinture qui recouvre le parquet et les plinthes sous le lit ne laisse aucun doute. Tom a réalisé la maquette d'un village englouti. Sans aucun psy pour en parler, il ne l'a pas construit dans sa tête, il l'a bâti en vrai. La main de Savine me broie les phalanges. J'entends Nectaire crier au loin. « Réveille-toi, Amandine ! Bordel de merde, réveille-toi !» J'entends des voix, plus lointaines encore, raconter ces légendes persistantes. Un village a été englouti sous le lac Pavin, un village entier. La même légende, la même histoire que celle de Saint-Jean-de-Luz et du quartier de la Côte. J'ai compris. Savine tente de me retenir, mais aucune menotte ne le pourrait. J'entends une dernière fois crier dans la chambre d'en face. « Amandine, je t'en prie !» J'entends Savine supplier derrière moi. « Non, m'a dit, restez là !» Je ne les écoute plus. Je peux encore gagner. Je peux encore le sauver. Je me précipite hors de la chambre, en sautant 1 marche sur 3. Je dévale l'escalier sans me retourner. Je fais voler la porte d'entrée. Dehors, le vent s'est levé et la neige, en entêtant tourbillon, s'est remise à tomber.